Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 25 mai. Je crois que c'est lundi de Pentecôte. Hein, en France, c'est férié. Ici, en Afrique, ça ne l'est pas. Vous écoutez Radio Silence par Élise Mbok. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'actualité ici? Le 20 mai, c'était journée de la fête nationale du Cameroun. On parle de la fête, c'est pas l'indépendance, ce qui est d'ailleurs dommage. Parce qu'avant, on fêtait l'indépendance, ça avait du sens. Aujourd'hui, on fête la réunification entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Ce qui nous renvoie aux questions d'esclavage. Alors, vous savez très bien. Qui a ici une contestation de l'élection qui a eu lieu le 12 octobre dernier, mais avec le temps, puisque M. Tchiroma a été obligé de s'exiler en Gambie, avec le temps, c'est, vous savez comment vous dire, les gens ne sont plus aussi engagés qu'ils l'étaient. L'usure du temps fait que le chef n'étant plus là, étant absent, les gens sont un peu blasés et le président de la République s'est donc permis, dans la foulée, pour assommer un peu plus le moral des gens, de modifier la Constitution et de désigner pour qu'il puisse avoir le droit de désigner un vice-président. Ce qui n'était possible que s'il décalait les élections législatives et qu'un nouveau Parlement ne soit pas élu. Donc il a décalé tout ça et en la majorité, avec la dernière Assemblée, l'Assemblée caduque, avec l'élection présidentielle, ils ont fait ce truc-là qui, sans technique, mais voilà autant de choses qui passent et qui déboussolent un peu plus le peuple parce qu'ils se disaient à un moment donné que tout le monde était en phase, y compris des dirigeants, pour dire que c'est trop, 43 ans, il faut arrêter. Et finalement, on continue le business as usual. Bon, ça c'est pour l'actualité ici. Oh, l'actualité, pas ici, pas que ça. Ça c'est pour l'actualité récente, enfin récente, brûlante, parce qu'elle est déjà un peu passée, les gens sont fatigués, et on regarde, on se dit, on prie même plus, hein, on prie plus, oh, pff, scandale après scandale, ça arrive tous les jours. Le racket généralisé des forces de sécurité sur les habitants. Enfin, sur les commerçants, c'est comme ça, sur les automobilistes, on n'en parle plus, on parle plus. Ça, on va laisser tomber, on va plutôt rebondir sur la question de la terre dont on parlait la dernière fois, et la question des Bamiléké en métropole, et la question de la pression foncière qui continue. Vous savez que Facebook, c'est bien, il y a un algorithme, lorsque vous publiez quelque chose, et Facebook est accordé avec WhatsApp. Ne vous faites pas d'illusions, hein, ce que vous dites à WhatsApp revient à Facebook, etc. Alors l'algorithme m'a envoyé beaucoup de choses en rapport avec non seulement la question de l'autochtonie qui se posait ici, qui se pose alors ici. Alors s'il faut parler d'une actualité pas récente mais brûlante, c'est celle-là. Et l'autochtonie et en plus la question du grand avec la question du grand remplacement. Donc voilà, sur cet algorithme, je retiens, comment dire, d'abord parlons un peu de l'autochtonie. Alors, à partir de quel moment est-ce qu'on est déclaré autochtone? Vous voyez, on revient dans l'histoire des migrations, parce que les Bamiléké ont essayé d'objecter, faire une objection en disant oui, mais les Douala, ils ont beau dire qu'ils sont du littoral, mais ils viennent du Congo. Voilà, donc c'est pas vraiment des autochtones. Enfin, à ce rythme-là, personne n'est autochtone. Alors on s'est dit, mais à quel moment dit-on qu'on est les premiers occupants de la terre? Parce que la terre appartient aux premiers occupants, il ne faut pas oublier. S'ils ne sont pas partis, hein, entre-temps, comme en Israël, ils disent qu'ils étaient là, entre-temps, ils se sont barrés, ou on les a chassés, je ne sais pas, puis ils reviennent 2000 ans plus tard pour dire que oui, mais on était là, là c'est un peu compliqué. Parce qu'entre-temps, il y a quand même une fondation historique à partir de laquelle on se définit comme autochtone. En cherchant, déjà, si on cherche au niveau de l'Afrique, les Bantous, ils viennent d'où? Les Bamiléké eux-mêmes, qui seraient peut-être des Bantous, mais dont on soupçonnerait aussi une autre origine, tout n'est pas clair dans l'histoire de l'Afrique. C'est ça le problème de l'Afrique, qui fait que elle est faible au niveau de la gestion de ses problèmes d'abord, de la construction des villes, et aussi parce qu'elle ne se réfère pas à sa mémoire ancestrale, ce que les Chinois ont très bien fait, parce qu'à un moment donné, lorsque vous allez fouiller dans votre mémoire, vous pourriez quand même trouver des choses qui vous donnent matière à vous relancer lorsque vous ne savez plus comment faire ou où vous allez. Question autochtonie, donc ça nous c'est si bien ce débat que M. Limbi Lobé a amené, parce qu'au moins on commence à parler de mémoire derrière l'autochtonie. Par exemple, et c'est pas tout. Derrière l'autochtonie, on s'est dit, ben, à partir de quel moment? Oh, alors on s'est dit, puisqu'avant la colonisation, où il y avait quelque chose, mais qui a été effacé, on va se baser déjà sur la conférence de Berlin, 1885, je crois, où Bismarck a son, vous voyez, l'Afrique représentée comme un gâteau, le chancelier Bismarck a son couteau, il découpe. Ils ont découpé déjà les morceaux de l'Afrique, ici le Cameroun, ici, pas le Cameroun, ici la France, ici. On a partagé entre les grandes puissances. Voilà. Il se trouve donc à ce moment-là, quand le Cameroun, les Allemands sont arrivés, ils trouvent des gens sur place, un peuple sur place, qui est donc le peuple Douala. Bon, si on commence là en 1885. Personne ne peut contester l'autochtonie au Douala, sous prétexte que oui, ben avant il venait du Congo et puis à part les pirogues et tout, mais la légende dit que ils sont arrivés, lorsqu'ils sont arrivés, parce que c'est des gens de l'eau, voilà, c'est des pêcheurs, ils ont trouvé des peuples sur place. Partout où les gens sont allés, de toute façon, personne n'a jamais rien découvert, il y a toujours des peuples sur place. Ils ont trouvé les Bassa et les Bakoko qui n'avaient pas d'activité et de culture de l'eau. C'est des gens qui vivaient de la forêt, se sont retirés et leur ont laissé le littoral côtier sans problème. Donc les Douala sont là quand les Allemands arrivent. Ce qu'ils trouvent, c'est des rois Douala. Ils trouvent pas d'autres, même les Bassa, ils trouvent pas les rois Bassa. Tous, c'est déjà des Douala. Ça fait que il n'est pas possible de leur contester l'autochtonie. Alors là-dessus, je pense aussi, quand on parle d'autochtonie, parce qu'il n'y a pas que Douala qui est concerné par cette histoire. Hein, la pression foncière, elle devient, c'est un problème national, enfin national, si tant est que ce sont les grandes villes qui définissent le destin national. Les grandes villes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Yaoundé, la capitale politique. Douala, la capitale économique, et puis des villes moyennes, en fait, les deux grandes villes et des villes moyennes, comme Kansamba, un peu Bafoussam, un peu Kribi, je ne sais pas si on peut dire moyenne, oui, elle prend un essor, et Ebolva, Sanmélima, toutes ces villes un peu au destin, au schéma, c'est flou, mais on va se cantonner aux deux grandes villes, parce que ce sont les villes qui intéressent. Les immigrés bamiléké, qui les immigrants ou immigrés, j'en sais rien, immigrés entre guillemets, qui veulent un peu qu'on leur donne une place égale à celle des autochtones. Bon, dans le bulletin précédent, j'ai bien démontré qu'on ne pouvait pas parler ici, comme en France, d'une conception maximale de la citoyenneté parce que tout simplement, le Cameroun n'est pas encore une nation. C'est une juxtaposition de régions et de communautés. Pardon. Une juxtaposition de régions et de communautés. D'autant plus que l'architecture, la construction de la ville, n'est pas emmené par l'État, mais par justement les gens de ces communautés-là, dont le dynamisme est vraiment local, au sens, je veux dire propre du terme, dans ce sens que ce sont les gens qui font la richesse de leur religion et ce n'est pas l'État. Vous voyez? Alors, ça fait que vous ne pouvez pas partir d'une région à une autre et venir revendiquer une citoyenneté nationale qui n'existe pas parce que la nation n'existe pas. Il n'y a même pas la langue que nous parlons ici, c'est le français et ou l'anglais. Alors, ça complique. Peu importe, on a donc tout ça parce qu'on n'a pas d'histoire, notre histoire. Et quand on va plus loin, pas plus loin, plus près après la conférence de Berlin où les Allemands peuvent prouver que ce qu'ils ont trouvé ici, c'est les Douala, donc il n'y a personne qui peut contester leur autochtonie, on arrive quand même à autre chose. Qui est revendiqué, les Bamlékés disent que ah ben nous, on a le pouvoir. Hein. On a le pouvoir, donc, puisque nous avons réussi à avoir le pouvoir économique, vous ne pouvez plus vous adresser à nous n'importe comment, parce que c'est nous qui payons vos impôts, c'est nous qui faisons ci, qui faisons ça, bande de fainéants que vous êtes. Bon, vous voyez, on arrive à ça parce que il n'y a pas le travail, la mémoire. Et quand on voit, l'algorithme m'envoie des choses que je connaissais mais que j'avais oubliées. Pardon, j'ai un petit toux, un petit rhume. On se rend compte que pendant que les Allemands étaient là, un milliardaire, multimilliardaire, s'est caractérisé. S'est caractérisé, a émergé avec force, c'est Monsieur Sopo-Priso. C'est vraiment le prince, s'il en fallait un de Douala, pendant l'époque allemande, dont les Allemands en ont fait un prince, ils l'ont emmené en Allemagne, ils l'ont formé, il est revenu et tout, et tout, et tout. Son ascension a été telle que il a touché à tout, il est devenu multimilliardaire, ce monsieur, on parlait que de lui, Sopo-Priso. Moi, je me souviens les années quand on grandissait, on entendait ce nom comme une légende. Et ça gênait monsieur Ahidjo, qui était président du Cameroun, qui lui aussi avait cette. Il avait probablement eu cette consigne de tuer la mémoire camerounaise, parce qu'il ne fallait pas parler de tout. Les indépendantistes qui ont lutté et qu'on a caractérisé de maquisards, il fallait surtout pas en parler. On a effacé l'histoire comme ça de la mémoire des gens. Elle n'existe. Il n'y a pas un livre dans le cursus éducatif des petits depuis la maternelle qui chante ce roman national à travers ses héros. Non, c'est une histoire interdite, c'est une histoire bannie. Et dans la foulée, quand les milliers, les magnats, comme ce Sopo-Priso de l'immobilier surtout, arrive, il a construit Douala, c'est lui qui a posé vraiment les fondements du Douala moderne. C'est celui-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que finalement, Ahidjo, il a même été candidat à la présidence. Ahidjo va détruire sa mémoire, vous voyez, il va l'effacer dans l'histoire de Douala. Et donc, par-dessus, on va poser, comme ça se passe toujours, les Bamiléké, alors que c'est Monsieur Sopo-Priso, un prince, Douala, qui accueille Monsieur Kadji, qui est devenu aujourd'hui le brasseur, qui est devenu une pointe dans le domaine de la brasserie, un riche Bamiléké. Vous voyez, vous accueillez les gens et finalement ils vous font la nique, ils vous font à l'envers, comme on dit. Et puis surtout, il se pose en maître absolu et essaye d'effacer ce qui existait avant, en sorte que les populations ignorantes, amnésiques ou d'autres sans histoire se disent oui, mais c'est vrai, aujourd'hui on voit ceci, on voit cela, oui, mais avant, il y a eu un parcours qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce parcours qui a permis à ceux qui sont installés aujourd'hui d'être consacré roi. Vous voyez, il y a un terrain qui a été préparé, et comme toujours, ceux qui ont préparé ce terrain-là ont subi l'ingratitude mémorielle. Nous avons ce problème. Les Africains, avant de revendiquer quoi que ce soit, doivent se replonger dans leur histoire et raconter le roman, les romans nationaux, les romans, les parcours individuels. Je veux dire, si l'Occident est aussi avancé, c'est parce que elle a su imposer un narratif national qui est même d'ailleurs devenu comme la France universelle, avec les Lumières. Donc, dont je suis le produit, bien sûr. Donc, cette histoire, moi, je l'ai commencé, enfin, je l'ai racontée comme ça. L'algorithme a beaucoup aidé parce qu'elle m'a envoyé des choses, mais figurez-vous, des horreurs sur les grands remplacements qui se sont produits. En fait, le principe est toujours le même. On enlève les enfants aux familles. On va les endoctriner, on change de nom, ils ne parlent plus leur langue et tout. Bien sûr, tout cela du Epstein avant l'heure, hein, ça accompagne de tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les tortures chez les enfants. Beaucoup, des milliers, des millions en meurent. Et bon, voilà, c'est la vie. Mais tout ça, pourquoi? Pour effacer justement le lien entre ces enfants et leurs parents, le lien entre ces enfants et le territoire, parce que par la suite, on va détruire les territoires, on va les effacer et les annexer. Ceci a eu lieu. Alors, j'ai la liste, hein. En Suisse, en Espagne, en Australie, en Belgique, en Argentine, le Norway, c'est quoi encore? Je sais plus, Norvège, au Japon, j'allais dire du Japan, en Islande, à Irlande, pardon. En France, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Mexique. Et la liste, elle est énorme, où ces horreurs ont eu lieu avec des tueries à la Gaza, comme on voit aujourd'hui avec les Israéliens. Pourquoi avec Israël? Pourquoi voulez-vous que Netanyahou se gêne? Il va pas se gêner parce que il plonge dans cette histoire d'annexion, surtout qui est comment je vais dire, illustré de manière emblématique par l'annexion du Mexique, des territoires mexicains. D'après le reportage, la moitié de l'Amérique, pratiquement, serait constituée des territoires mexicains arrachés, la Californie, le Texas, tout ça, c'est entre autres, hein, j'oublie les autres. Et comment ça s'est passé? De la même façon, la brutalité, on arrive, on tue les gens, on enlève les enfants au mieux, ceux qui survivent racontent, mais ce qui est sûr, c'est que on ne se contente pas d'enlever les enfants. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de tuer leurs parents, on détruit tout. Il n'y a plus trace. Et comme ça, après, on s'approprie les choses et on dit, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Ce que les Bamblékés font, était en voie de faire, c'est un peu cela. Donc l'algorithme me prouve ça et me dit que en Argentine, c'est aussi un cas exemplaire, comment l'Argentine est devenue blanche, elle était aux trois quarts noire. Alors quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent les enfants, ils séparent les enfants, les femmes, des hommes. Alors les enfants, les femmes sont introduits dans un processus de métissage, de blanchiment. Pendant que les hommes sont maintenus à l'écart, au chômage, dans la dépression, dans le dénuement, après ils feront des délits, ils seront en prison, ils seront esclavagisés, etc. Il y a eu une extinction si on peut dire, de la race, du peuple noir en Argentine. L'Argentine est devenue blanche. Je veux dire, quand ce n'était pas cette façon-là systématique d'éliminer la couleur qui dérange du peuple, c'était l'arrachement des terres. On arrachait les terres, mais dans tous les cas, il y avait ce processus de désappropriation qui s'accompagne d'un processus d'effacement systématique de tout ce qui existait avant pour que son s'approprie soit les nouveaux, la gloire. Et c'est ce qu'Israël fait. Israël est dans le droit, je veux dire, dans le droit, pas dans le droit, en ligne droite, par rapport à ces pratiques-là, de grands remplacements, de toute façon, Israël en plus, ce qui est unique au monde, la caution de la Bible. Alors, beaucoup de gens sont plus ou moins sidérés, mais les juifs, enfin, entre guillemets, qui sont dans cette logique, parce que tous ne sont pas dans cette logique-là, il y en a qui critiquent beaucoup, mais ceux qui sont dans cette logique du peuple élu, exclusif, qui a donc le droit de mort, de tuer, de prendre les choses, ben, ils se disent qu'ils ne font rien d'autre que poursuivre la marche de l'histoire telle qu'elle s'est, elle a toujours été pratiquée depuis, je sais pas, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans, etc. Et vraiment, l'Amérique, avec ce qu'elle a fait au Mexique, et les aborigènes, pas les aborigènes, c'est pour les Indiens, les natives qui sont là dans une sorte d'enclos. Vous voyez, ça reste comme des vestiges de l'humanité. Ici, donc, pour en revenir au problème bamiléké, on veut donc éviter cela absolument parce que, on va finir par là, deux ou trois exemples, les pratiques, donc ce qui va suivre, parce que là, on n'est qu'au début de cette histoire. Alors, évidemment, les bamilékés se disent, oh là là, on est victime de la haine de tous les autres, c'est toujours nous parce que nous sommes les meilleurs, nous avons beaucoup d'argent. Il paraîtrait même qu'au Canada, déjà, ils ont un territoire qu'ils ont annexé à eux, ou qu'ils ont annexé pour eux, enfin, annexé, c'est entre guillemets. Bon, ils font leur étalage de la gloire et de leur succès, ok? De l'autre côté, on se pose la question, mais comment les terrains ont d'ailleurs été acquis? Et on recommence par notre fête nationale, où il s'est produit une chose extraordinaire. Le préfet, oh, il y a un chien qui aboie là, je suis désolé, un chiot, les gens ici, bon voilà, au cas de l'Afrique, hein, vous apportez votre chiot, vous emmerdez tout le quartier, tout le monde se tait, on ne peut pas parler parce que c'est la jungle, c'est la loi du plus fort. Et puis, les autorités ayant déserté leur. Comment je vais dire, ne s'occupant pas de rien, les quartiers ici sont abandonnés, chacun fait ce qu'il veut, la mairie passe pas, la police passe pas, il n'y a personne qui passe, alors c'est le quartier, c'est le plus fort, il fait ce qu'il veut. Alors, je sais même plus où j'en étais, j'étais sur la pression foncière. Le préfet, au moment, vous avez vu un fête national, comme le 14 juillet. Le gouverneur et le préfet s'opposent sur le territoire, je sais plus si c'est pas au littoral encore, oui, pas loin, je crois que c'est de côté du Japoma, où il y a une spéculation immobilière qui se met en place, cautionnée par le gouverneur, et le préfet n'est pas d'accord. En fait, ici, le gouverneur, c'est l'équivalent du préfet de région en France, qui peut être aussi le préfet de la ville, mais comme nous, on n'a pas d'argent, mais nous aimons, je m'identifie, hein, parce que moi, je m'identifie au lieu où je vis. C'est comme ça, parce qu'en ce moment, je suis pas en France. Bon, la France, je m'identifie parce que forcément, je suis française, mais partout ailleurs, si je vais en Russie, je vais m'identifier au problème de la Russie, forcément, si j'habite là-bas. Ici, je m'identifie, je suis né, c'est vrai, mais avec ma double origine, ça fait que je vois les choses aussi des deux côtés, et vous pouvez pas. Et puis, de toute façon, l'Afrique, c'est le lieu où vous devez être pour mieux voir le monde. Ça, c'est curieux, hein, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, tout ce qui est Banque mondiale, qui aide l'Afrique à sortir de la pauvreté, alors que ce sont eux qui contribuent à installer cette pauvreté. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, ça, on parlera une autre fois, tout ce qui est les prêts que les dirigeants prennent, non pas pour impulser un quelconque développement, non, mais pour organiser le fric dans la ronde que vous voyez avec l'Union européenne qui envoie d'un fric fou à l'Ukraine pour la guerre, alors que l'argent finalement est détourné dans les paradis fiscaux. Non, vous ne comprenez pas. C'est une parenthèse. Le préfet arrive, le préfet n'est pas d'accord, le gouverneur est d'accord, il vient, le gouverneur c'est au niveau. Le préfet aussi, je sais plus, on comprend même plus. Le préfet c'est départemental, on va dire comme ça, et le gouverneur c'est régional. Il arrive devant tout le monde au garde à vous, il salue pas le préfet. Il va saluer les autres. Il zappe le préfet. Or, que c'est après lui, sur le plan hiérarchique, c'est le préfet. Il le zappe. Ah, d'accord. Tout le monde devant les micros, les caméras de toute la nation, y compris du président de la République qui est assis en tribune. C'est vous dire. Tout ça, c'est toujours un Bamléké qui est dans la promotion de la chose, qui est dans l'achat, la spéculation immobilière. Et on a ces cas-là qui deviennent tellement. Je veux dire, quand on en arrive là, on se dit, mais qui commande ici encore? Et toujours dans la pression foncière, ici à Yaoundé, parce que là, c'est M. Limbi Lobé de Douala, du littoral, qui pose le problème, mais ici à Yaoundé, sur le plan du vivre ensemble, ici à Yaoundé, oui, à Yaoundé, historiquement, pas très loin, pas très loin, quand l'immigration bamléké commence, on est dans les années 70, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ils arrivent, les autochtones gentils, comme ce qui s'est passé avec les Douala, leur laissent la place devant, voyez, et eux, ils se retirent à l'arrière, oui, restez là, c'est un peu bon, ok, on verra. Et au fur et à mesure, certains sont allés faire des titres fonciers sans même informer les autochtones. D'autres sont, comment on va dire, ont acheté, mais à vil prix. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les bureaux, et ils sont toujours en avance, hein, sur le coup, les bureaux et les stations d'essence sont en bordure de route, pendant que les autochtones sont derrière, et ce sont les Bamlékés qui profitent de la valeur ajoutée. Vous voyez comme ça, comment ça marche. C'est pensé avant. On se demande même s'ils ne reçoivent pas, ils sont pas un peu dans des choses, des délits d'initiés, où ils ont une information avant pour pouvoir savoir où acheter avant tout le monde. Donc, on a ça, et aujourd'hui, les gens de Yaoundé se réveillent et se disent, les autochtones, mais comment il faut qu'on revoie les prix, parce que là, on a été spoliés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient parfois? Parfois, ils vous disaient, ces Bamlékés, quand vous aviez un enfant malade, ah oui, donne-moi l'ordonnance, je vais payer et tout. Vous voyez, ils jouent à ce jeu gentil et ça fait qu'ils ont aveuglé ceux qui les ont accueillis. Bref, l'exemple qui de la femme avec lequel je vais conclure pour vous montrer combien la ruse intervient. De toute façon, partout, ils ont conquis les terres. C'était ça au début. Les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, gentils, gentils. Et puis après, quand ils convoquent les rois, c'est pour les exécuter et puis commencer les tueries en masse. Donc voilà, le dernier exemple, c'est avec l'autoroute. Il y a une autoroute, on va dire comme ça, les 60 km qui ont déjà été faits en 10 ans, avec un budget multiplié par X. À chaque fois, qui vient donc de Yaoundé, qui va à Douala et qui s'est arrêté quelque part au niveau de Bibori. Ça, c'est à 4 km de chez moi. Alors, très bien, on est content. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les Bassa n'ont pas de titre foncier. On a des communautés, on a le terrain ensemble. Alors, évidemment, c'est si, c'est ça, c'est bon. Avant, c'était organisé parce que les gens avaient encore la tradition en tête. Aujourd'hui, c'est le mercenariat qui opère, mercenariat foncier, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est un problème qui n'est pas encore apparu, mais ça va apparaître. Ils arrivent sur le long de l'autoroute, ils repèrent des gens et leur disent, oui, voilà votre territoire, est-ce que vous avez un titre foncier? Ah non, j'ai pas, parce que c'est très compliqué d'avoir un titre foncier ici, et surtout ça coûte les yeux de la tête. C'est pas donné à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, ah, mais moi je peux vous faire obtenir un titre foncier, mais après vous allez me donner un pourcentage tant, mais je prends pas l'argent, vous allez me céder une partie du terrain. Et comme à l'identique, ce qu'ils ont fait ici à Yaoundé, ils vont prendre le bord de la route, dans les bords des autoroutes, de l'autoroute, les 60 km. Quand on va aller voir, il est déjà pratiquement occupé, soit par les Bamlékés, soit par les gens de l'armée, soit par les gens de l'État. Et les Bassa autochtones vont se retrouver à l'arrière, en arrière-plan. sais pas si vous voyez à quel point tout ça est diabolique, mais en même temps, vous dites, ah ben, c'est l'histoire qui continue, ça marche. Forcé. Et on est d'autant plus embêté qu'on se dit, mais quand même, nous ne sommes plus à cette époque-là. Il y a l'endroit, il y a ci, il y a ça, mais non. Ça compte pas, vous avez vu Israël combien de fois Israël a été condamné et il s'est jamais, rien n'a jamais, enfin condamné, rien n'est, personne n'est sanctionné. Et ça a toujours été comme ça, sur la liste de tous les pays que je vous ai cités. Tous ces génocides, bon, génocide, tous ces enlèvements, tous ces accaparements de terrain par la force, on n'a puni personne. Tout le monde va qu'à ses occupations, tout le monde est libre, les territoires s'agrandissent. Israël veut le Liban, Israël veut la Libye, Israël a détruit la Syrie, veut la Syrie, veut l'Irak, puis veut l'Iran. Je ne sais pas si la Jordanie se fait des illusions, elle est en ligne dans la ligne de tir. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut donc, à un moment donné, on est déçu de dire que les gens se lèvent. Qui va se lever puisque c'est l'État lui-même qui cautionne ce genre de choses. Qui va se lever? Qui va se lever? Alors, il reste que les populations doivent prendre les choses en main. Dernièrement, ça a donné dans une ville qu'on appelle Zoétélé. Des gens se sont énervés parce que, ah oui, la dernière phase qu'ils font, il y a les gens de la diaspora qui viennent et qui veulent revendiquer leur terre. Mais c'est surtout des femmes, elles sont éliminées systématiquement. C'est tout. Par les gens qui veulent le terrain à tout prix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et l'État est là, on n'entend pas des condamnations, mais les habitants de temps en temps se soulèvent et sont allés piller le magasin de celui qu'on soupçonne d'être l'auteur de l'élimination de cette femme. Il y a des horreurs dans cette histoire du foncier. Et autant on le voyait entre des États, des pays, des nations différentes, autant maintenant ça se passe au Cameroun. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde. Je vous dis à bientôt.